talmudique. Il y a 20 ans, s'est tenu à Mantes-la-Ville, dans un lycée professionnel en zone dite d'éducation prioritaire, un colloque très particulier dont le titre reste encore gravé dans mes mémoires. Réalité et fiction, lecture imbriquée, frontières illusoires, point d'interrogation. J'eus l'honneur d'y être invité. Les élèves qui l'organisaient avaient rencontré Philippe Roth, c'était pour le moins intriguant, j'en parlais autour de moi. Un de mes amis libraires s'écria « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Mantes-la-Ville ?» Ce cri de surprise n'était pas vraiment très étonnant. Oui, qu'est-ce que j'allais bien faire à Mantes-la-Ville ? Sans doute, comme Malek Chebel, Annie Terrier, Stéphane Zagdanski, Alain Finkielkraut, Alain Didier Veil, Sabine Melchior-Bonnet, Philippe Mérieux et encore quelques autres chercheurs et enseignants, j'ai pensé important de faire honneur à ces élèves à qui Philippe Roth avait affirmé « Je ne vous oublierai jamais et si, comme vous le dites, je vous ai ouvert les portes de la littérature, c'est ce que j'aurai accompli de mieux ». Ouvrir les portes de la littérature, c'est dire combien, pour de nombreuses personnes, elles sont fermées. Et ce qu'il faut de volonté et de courage pour les entrouvrir, ce qu'il faut de talent et de conviction à des enseignants à qui on ne rend peut-être jamais assez hommage. Ouvrir les portes de la littérature, n'est-ce pas justement aussi ce que font toujours et encore, avec enthousiasme et confiance, non seulement les écrivains, mais tous ceux qui se battent pour que le livre puisse exister, à commencer par les éditrices et les éditeurs, toujours à l'affût de nouveaux textes ou de textes anciens, voire oubliés, qui cherchent à les rendre accessible au plus grand nombre pour partager la passion qu'ils ont pour un auteur, la beauté d'une écriture, le génie d'un style, l'inventivité d'une intrigue. Des éditeurs qui nous proposent des livres inspirés, c'est-à-dire, comme le dit Catherine Chalier, des livres qui appellent à une interprétation renouvelée. Les éditeurs, mais aussi les libraires, et encore les traducteurs et les traductrices, qui mettent leur savoir et leur talent au service de la polyphonie des langues pour que ces livres puissent être lus dans le monde entier. Et c'est justement pour nous un très grand plaisir de recevoir aujourd'hui deux traductrices d'un auteur qui savait ce que sont les véritables livres, ceux qui nous éveillent à la vie et dont l'œuvre, par sa richesse, n'a pas fini d'ouvrir les portes de la littérature et d'y inviter des lecteurs de plus en plus nombreux. J'ai nommé Sholem Aleichem. Nadia Dehan-Rothschild et Evelyne Grimbert, mesdames, bonjour.
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 Sholem Aleichem est un immense écrivain yiddish du 19e siècle et du début du 20e siècle. Deux titres nous sont proposés ces jours-ci dans un très joli petit coffret aux éditions de l'Antilope. Nous allons en parler, mais pour commencer, j'aimerais vous faire entendre quelque chose.
Als de kind in het Shabbat, zal zich ook maar zich in Geshenja draaien,
Shalom Aleichem, c'est la formule que l'on dit quand on dit bonjour à quelqu'un, notamment quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on ne connaît pas, un petit peu comme « how do you do » en anglais.
Gilles Rosier.
Ça veut dire « la paix soit sur vous », comme en arabe « salam alaikum », mais ça veut dire « comment allez-vous ». Et c'est extrêmement populaire, extrêmement idiomatique, c'est-à-dire tout le monde est susceptible de se dire « shalom aleichem ». Donc moi j'y entends une manière de dire, voilà, moi je suis l'écrivain qui parle à tout le monde, et je suis l'écrivain à qui on peut dire, quand on me voit, shalom aleichem, et auquel je répondrai aleichem shalom. Ce n'est pas l'écrivain qui veut rester dans sa tour d'ivoire.
Une archive de France Culture de 2016, Une vie, une œuvre, consacrée à Shalom Aleichem, le Luftmensch, par Mathilde Wajman. Nous comprenons d'emblée que le nom de cet écrivain, son pseudonyme, car c'est un pseudonyme, cristallise en fait tout un programme littéraire et philosophique, à la fois en ce qui concerne sa conception des langues, la question de ses influences, des sujets qu'il traite, du style, des histoires et du public à qui il s'adresse. Nadia Dehan-Rothschild et Evelyne Grimbert, qui est donc ce fameux Shalom Aleichem que certains disent être le plus grand écrivain yiddish de tous les temps?
Tout d'abord, Shalom Aleichem est né Sholem Rabinovitch en 1859, près de Kiev en Ukraine, à Pereyaslav, qui se trouvait à l'époque dans l'Empire tsariste. Il perd sa mère assez jeune. Sa belle-mère lui inspire sa première œuvre. C'est un recueil de malédictions et d'insultes. Donc on voit déjà qu'il applique un système de résilience, comme on dit aujourd'hui. Après avoir reçu une éducation traditionnelle et laïque, il devient précepteur de la fille d'un riche homme d'affaires, Olga Loyev, et tous deux tombent amoureux. Le papa n'est pas d'accord, mais Sholem Aleichem finit par se faire accepter comme gendre parce qu'il parvient à une situation convenable. Ces mésaventures amoureuses lui inspireront son premier roman. Et très vite, il utilise son pseudonyme qui devient synonyme de l'humour yiddish et juif. Après la mort de son beau-père, il hérite de sa fortune et il s'empresse de choisir les deux meilleurs moyens de perdre toute sa fortune, à savoir d'abord l'édition de grands auteurs yiddish qui sont ses contemporains, en fondant la Volksbibliothek, bibliothèque populaire yiddish, et puis il joue en bourse. Ce qui, là, il perd tout, et ça lui inspire l'un de ses héros les plus célèbres, Menachem Mendel le rêveur, qui est un Luftmensch, toujours à la recherche d'un gagne-pain, qui rêve de fortune et qui, lui, va aussi jouer en bourse. Sa popularité grandit, c'est une sorte de rockstar, qui fait des tournées de lecture dans toute l'Europe et en Amérique, non pas pour payer ses impôts, mais pour nourrir sa famille. En 14, la guerre éclate. Il est pris au piège avec toute sa famille dans une station balnéaire en Allemagne où il séjourne en villégiature. Il parvient à se réfugier à Copenhague, d'où il émigre en Amérique. Il meurt en 1916 à New York. Il a 57 ans. Et c'est l'auteur de plus de 20 volumes de nouvelles, de romans, de pièces de théâtre. Et toutes ses œuvres sont profondément inscrites dans la réalité juive, mais elles ont une portée universelle.
Universelle, avec ce terme qu'on a utilisé deux fois, Luftmensch, qu'est-ce que ça veut dire, Nadia Dehan-Rothschild?
Un Luftmensch, Luft c'est l'air, donc c'est un homme de l'air, au sens où il vit dans ses rêves de réussite. C'est aussi, on peut dire, peut-être une incarnation de tout un petit peuple de gens qui n'avaient effectivement pas de vraies possibilités d'accéder à une stabilité matérielle, sociale, dans le monde tsariste, et qui donc rêvait de la fortune qui viendrait sûrement. Et donc ce personnage va essayer tous les métiers, il va jouer en bourse, il va perdre bien entendu, il va essayer de devenir un marieur, même là il va échouer, puisqu'il finira par présenter, je me souviens plus si c'est deux jeunes filles ou deux jeunes garçons, ce qui à l'époque ne se faisait pas du tout. Qu'est-ce qu'il a essayé encore comme autre métier? Après il deviendra journaliste, ce qui permettra à Shalom Aleichem de développer les thèmes d'actualité actualité dans la deuxième série des aventures de Menachem Mendel, qui se passe en Amérique, puis qui couvre les guerres des Balkans, etc.
Pourquoi ce pseudonyme? Que nous disent les harmoniques du nom qu'il s'est choisi? Pourquoi ce pseudonyme, Evelyne Grimbert?
Sholem Aleichem, c'est une salutation, c'est la paix soit sur vous. Les connotations sont très riches. C'est l'idée que ça suggère, c'est la rencontre des autres. Ce qui intéresse Sholem Aleichem, c'est d'aller voir les autres, les écouter, échanger des histoires avec eux. Et d'ailleurs, il écrit un jour à un ami à qui il demande de lui envoyer des faits divers, des anecdotes pour enrichir ses nouvelles. Il dit ceci: « La vie est riche de faits, un océan de larmes qui, lorsqu'elles seront passées par mon prisme, deviendront vraiment comiques, un vrai régal. » Et là, on a vraiment les deux aspects de Sholem Aleichem, c'est-à-dire l'empathie avec les autres et le désir de les faire rire.
Et comment ça se retrouve dans son œuvre, on peut dire aussi dans son style, dans ses thèmes et dans ses histoires, Nadia?
Ça se retrouve dans le fait qu'il emprunte à tous les registres possibles de langue. La langue des petites gens, la langue populaire, pleine d'expressions savoureuses, de proverbes, de malédictions, d'interjections. Mais ça se retrouve aussi dans le fait de puiser à toutes les sources, en fait, de la culture juive.
Oui, d'une certaine manière, donc, il est populaire, accessible, et il a en même temps tissé, je veux dire, son œuvre est tissée de multiples références. Il y a, semble-t-il, un formidable tissage entre les textes et les coutumes de la tradition, une démultiplication de références qui est particulièrement jubilatoire pour qui sait les reconnaître, des références culturelles d'un univers juif traditionnel que Sholem Aleichem voulait offrir de façon artistique, une forme, me semble-t-il, de Haskala, mais différente de celle des maskilim de son époque, et il faut peut-être repréciser ce qu'on appelle la Haskala. Nadia.
Oui, la Haskala, c'est le mouvement des Lumières réinterprété au sein de la société juive. Et dans son début, ça a commencé en Allemagne avec des gens aussi fameux que Moïse Mendelssohn. Il s'agit de critiques souvent féroces, en fait. Il s'agit de rendre les Juifs acceptables par le monde moderne et le monde non-juif. Sholem Aleichem est l'héritier, d'une certaine façon, effectivement, de cette tradition éclairée, mais il est l'héritier, en fait, de toutes les traditions. Et c'est pour ça aussi qu'il est le plus fameux des auteurs yiddish et qu'il est apprécié par tous les lectorats possibles, des religieux aux athées militants, des socialistes, des sionistes, des riches, des pauvres. Il puise à toutes les traditions de la Haskala, donc il a repris la critique, mais atténuée de la société juive, et puis aussi l'ouverture à la culture européenne en général, et puis les traditions populaires, enfin, vraiment toutes les composantes.
Oui, Evelyne.
Oui, je voulais juste ajouter que pour lui, qui écrit plus tard, après une série de pogroms, et qui voit les limites de l'idée d'une assimilation heureuse, il voit aussi l'existence des Juifs dans la zone de résidence, où ils sont cantonnés, loin des grandes villes. Il s'agit plus de présenter le peuple comme une masse obscurantiste et fermée à la modernité. Et il se sert de la tradition juive avec ses richesses pour exprimer justement toutes les qualités, les défauts du peuple. Et cette tradition juive devient une véritable source littéraire et artistique.
Littéraire, artistique, en yiddish, vous en êtes toutes deux les traductrices. Quels enjeux toutes ces questions soulèvent pour les traductrices que vous êtes de cet auteur si riche et si complexe? Nadia.
Alors peut-être un des premiers points, c'est de dire que Sholem Aleichem travaille beaucoup sur l'oralité dans la forme de son écriture. Il a écrit du théâtre. ces nouvelles courtes sont très souvent des monologues, donc ça passe par la parole. Et traduire une oralité qui est en fait très travaillée, c'est pas du vrai langage parlé, c'est un langage parlé recréé. Ça c'est déjà un premier gros défi pour des traducteurs. Et en ça, on est aidé par le fait de travailler à deux, parce que chacune lisant à l'autre son premier jet, on passe par la parole et on entend. Ce qu'on n'entend pas, si on se le lit soi-même à haute voix, ça fait pas pareil que de l'entendre et de voir sur le visage de l'autre que « ouais, bon, non, c'est pas si bien que ça », ou bien « ah oui, ça c'est bien ».
Evelyne ?
Oui, enfin, un autre enjeu, c'est comment faire passer l'humour de Sholem Alechem quand il joue sur les éléments de tradition ou les expressions populaires. Parce que quand il détourne un verset, par exemple, tous les juifs de l'époque connaissaient les textes. C'était quelque chose de quotidien. Quand il détourne un verset, tout le monde comprend qu'il y a détournement. Comment faire passer ça maintenant, alors que pour des non-juifs, et même pour les juifs qui sont maintenant extrêmement ignorants de cette tradition. Et ça, voilà, c'est une des difficultés. Il faut essayer de rétablir une connivence avec le public d'aujourd'hui, tout en lui transmettant cette richesse-là.
Sans passer nécessairement par les notes.
En évitant, de préférence, de passer par les notes.
Et comment vous avez réussi à faire cela ? Brillamment.
Je ne sais pas si on a réussi. on a essayé. Bon, d'abord, on est parfois obligé de mettre quand même à la fin du volume un glossaire des termes principaux du judaïsme qui ne seraient pas connus, qui ne sont pas connus de tout le monde. Puis sinon, parfois, on joue avec des équivalences. Je veux dire, on peut rendre parfois un verset biblique ou une sentence talmudique par une formule latine. J'ai souvenir, je sais plus, à un moment on emploie dura lex, sed lex. Ça se trouvait dans les pages roses du temps qu'il y avait des dictionnaires Larousse avec des pages roses. Bon, qui rend le côté à la fois familier et étranger du concept.
J'ai connu le nom avant de connaître l'œuvre.
Jean-Claude Grimbert.
Bon alors le nom, c'est ça a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'il avait un nom. Sholem Rabinovitch, et il écrivait en hébreu. Et donc, quand il a choisi le yiddish, il a voulu trouver un pseudonyme, comment dire, populaire. Écrire en yiddish, c'était se séparer de l'intelligentsia, qui, elle, s'exprimait en hébreu, à l'époque, et essayer d'être lu par ceux, justement, qui n'étaient pas des littéraires, qui ne lisaient pas l'hébreu, l'hébreu étant la langue religieuse, la langue sacrée, et leur langue commune, c'était le yiddish. Donc, il a choisi, avec d'autres, d'écrire en yiddish. Et comme pseudonyme, il a choisi presque « Bonjour, comment ça va ?»« Écrire comme on tend la main. » Voilà. En fait, « Sholem Alechem », c'est « tendre la main ».
Thank you.
Nous sommes en train d'entendre un groupe qui s'appelle Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. C'est une version du célébrissime chant traditionnel Evenu Shalom Aleichem. Et juste avant, nous avons entendu la voix de Jean-Claude Grimbert, toujours tiré de la même émission de Mathilde Wagemann, Shalom Aleichem Luftmensch sur France Culture. Le klezmer, c'est le style musical des orchestres itinérants juifs ashkénazes, souvent chassidiques, souvent clarinettistes, qui à force de s'imprégner de différentes influences folkloriques dans toute l'Europe de l'Est, a fini par devenir unique et reconnaissable entre tous, une sorte de jazz manouche nostalgique et espiègle à la fois, tour à tour enlevé, puis émouvant, plaintif, puis drôle. Le klezmer est une musique qui swing au rythme de la langue yiddish. Il se promène en duo, de duo en quartet, de trio en clarinette, de swing en swing, de thème en chorus, dans la nostalgie toujours renouvelée d'un « j'aime les profondeurs de l'âme tzigane », une musique autant déchirée, une musique en haillons, une musique en rouge et blanc, sans surneige, qui a l'humour et la nostalgie de Charlie Chaplin, ce philosophe qui fit toujours l'étonnement de Jean Kelevitch de ne pas être au programme de l'agrégation. Et j'ai écrit un jour que le klezmer, c'est le yiddish de la musique, que le klezmer, c'est le jazz du yiddish. Dès lors, ne peut-on pas dire que Shalom Aleichem serait le créateur d'une littérature klezmer, une sorte de jazz littérature? Et quand j'ai posé la question à mon traducteur Google, voici la proposition de traduction qui me fut faite en caractère hébraïque. Kenen mir zogen, as Shalom Aleichem is der Gründer von ein Jazz Literatur.
Il a bien répondu.
Donc voilà, moi j'ai fait un petit essai en yiddish. Et qui veut répondre à cette question sur le jazz littérature, Nadia?
Je pense effectivement qu'on peut faire un parallèle parce que c'est une langue que Montaigne aurait qualifié de « à saut et à gambade ». Donc c'est souvent une question de tempo, de rythme. C'est une parole qui a l'air d'être improvisée, même si elle n'est pas complètement. Les personnages libèrent un flot de paroles comme un flot de conscience, sautent parfois du coq à l'âne, et on sait l'importance des ruptures de rythme dans le comique. C'est ce qui fait rire, justement. Je peux vous donner par exemple dans Les Mille et Une Nuits de Krushnik, qui fait partie du coffret là, que vous avez présenté. Après avoir décrit une scène particulièrement dramatique où les Cosaques ont pendu le rabbin de la bourgade, le héros du livre s'adresse à Sholem Aleichem, le personnage qui recueille ses confidences, en lui disant: parlons plutôt de choses gaies, comme on dit. Il n'y a pas eu de pogrom chez vous? On n'a pendu personne? Quel pays fuyez-vous au juste, monsieur Shalem Aleichem? Et c'est ce genre de rupture de ton, ça se retrouve très souvent dans un autre livre, Shaine Schendel, la dame restée dans la bourgade, écrit à son mari, le Luftmensch, parti faire fortune dans le vaste monde. Puisses-tu aller brûler en enfer? Pourquoi restes-tu à Odessa, loin de moi? Casse-toi bras et jambes quand tu vas à la bourse. Et surtout, n'oublie pas de prendre ton écharpe quand tu sors.
Evelyne.
En ce qui concerne, par exemple, les Mille et Une Nuits de Krushnik, on peut même dire que c'est du jazz rock. Parce que, voilà, c'est un style qui a un rythme extrêmement soutenu. C'est justement ces sauts de rythme donnent tout à fait l'impression que l'homme qui raconte est une coquille de noix sur un océan. Et de fait, oui, c'est ce qu'il est, puisqu'il est, il raconte ce qu'il a vécu pendant les débuts de la guerre de 14, où il est ballotté comme tous les Juifs d'un côté et de l'autre.
Dans l'archive que nous avons entendu, Jean-Claude Grimbert dit « écrire, c'est tendre la main ». En fait, Shalom Aleichem, c'est tendre la main, dit-il, ce à quoi fait écho cette parole de Paul Celan dans ses lettres à Hans Bender, seuls des vraies mains écrivent de vrais poèmes. Je ne vois pas de différence, écrit Paul Celan, de différence de principe entre un poème et une poignée de main. Comment cette main tendue et cette poignée de main se traduit dans l'œuvre de Shalom Aleichem? Et je dois signaler que dans la brochure éditée par la bibliothèque MEDEM, parue à l'occasion du centenaire de la mort de Shalom Aleichem en 2016, on trouve un cachet en tête où est dessiné deux mains qui se donnent la main, si je peux me permettre cette redondance.
Alors, la main tendue, c'est s'approcher des autres d'abord, c'est être touché par eux, les toucher, c'est l'empathie. Et Sholem Aleichem, c'est une bénédiction. Et la première bénédiction, c'est d'accueillir la vérité de l'autre, avec ses petitesses et ses grandeurs. Il redonne cette vérité au monde par ses œuvres. Et ça, ça fait du bien. Et l'autre bénédiction, c'est son rire qui est plein de tendresse, parce qu'il s'inclut dans le monde qu'il décrit. Il n'est jamais, il ne parle jamais des autres comme d'un monde étranger dont lui serait supérieur, auquel il serait supérieur. C'est pour ça qu'il a créé une sorte de double, parce que Sholem Aleichem, c'est aussi un double qui existe dans ses œuvres et qui recueille les confidences de ses semblables. Donc ce n'est jamais l'auteur omniscient qui est supérieur à ses personnages.
Un homme à l'écoute.
Oui.
Nadia.
Oui, c'est ça. Et c'est aussi le dispensateur d'un rire qui soulage et qui tente de guérir, si c'est possible, les maux du monde.
Alors parmi les coutumes traditionnelles en lien avec Shalom Aleichem, il y en a une qui s'impose. Il s'agit du rite liturgique du vendredi soir, auquel fait même allusion Kafka dans son journal. Kafka écrit, selon la Kabbale, les gens pieux reçoivent le vendredi soir une âme supplémentaire, une âme parfaite, céleste et plus délicate, qui reste avec eux jusqu'au samedi soir. Le vendredi soir, deux anges accompagnent chaque personne pieuse du temple jusqu'à chez elle. Le maître de la maison les salue debout dans la salle à manger. Il reste juste un moment. Le maître de la maison les salue précisément en récitant un poème intitulé « Shalom Aleichem » et je pense à un petit livre de Gershom Scholem consacré à Walter Binyamin intitulé « Benjamin, enfin Binyamin et son ange ». J'imagine très bien un livre intitulé « Shalom Aleichem » ou « Sholem Aleichem et ses anges ». Que pourrait-on y trouver ?
Je pense que le titre serait très joli, mais c'est vous qui devriez l'écrire.
Oui, moi je ne connais pas Sholem Aleichem, je ne suis pas spécialiste, je peux écrire un livre sur Kafka, mais Sholem Aleichem, c'est vous les spécialistes, donc Sholem Aleichem, comme et ses anges, Evelyne Grimbert.
Je pourrais dire Mendel et Moïrer Sfarim, qui lui a ouvert la voie, qu'il considère comme le fondateur de la littérature yiddish moderne. Et Mendeley lui a d'ailleurs donné un excellent conseil, ce qui fait de lui une sorte d'ange. Il lui a conseillé d'abandonner la forme romanesque longue et de se consacrer à celle où il excelle, c'est-à-dire la forme courte.
Oui, ça c'est un bon conseil d'ange. Donc ça nous en fait un.
Peut-être sa femme, qui a été un ange fidèle à ses côtés toute sa vie, qui lui a donné 6 enfants. Et c'était à une époque où les mariages d'amour n'étaient pas si fréquents. Un bel amour.
Merci Nadia Dehan-Rothschild, merci Evelyne Grimbert pour cette vivifiante invitation au voyage dans l'œuvre de Sholem Aleichem que je vous propose de poursuivre avec vous la semaine prochaine. Entre-temps, je rappelle le titre du très joli petit coffret intitulé « Les petits mondes de Sholem Aleichem » qui contient les titres suivants « Les mille et une nuits de Krushnik » et « Gitel Purishkevich » et autres héros dépités. Merci encore Nadia Dehan-Rothschild et Evelyne Grimbert. C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wacknin. À la prise de son aujourd'hui Bernard Laniel, à la réalisation d'Annie Journeau qui commence déjà à apprendre le yiddish. Vous retrouverez toutes les indications biographique et bibliographique de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet talmudique, Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.